prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Alors bonjour, merci d'écouter ce podcast. Je m'appelle Benjamin Lioré et aujourd'hui, je vais vous présenter, alors assez brièvement, hein, en quelques minutes, mes travaux de recherche qui sont tirés de ma thèse de doctorat en droit et qui portent sur la protection des minorités et le regard de la doctrine française de l'entre-deux-guerres. Alors, ce travail s'inscrit dans le cadre d'un parcours, hein, le mien, assez classique, finalement, en droit international public et en histoire du droit. Et après, au terme de mes études, j'ai décidé donc de faire un doctorat dans le cadre d'une cotutelle internationale entre les universités Paris 2, Panthéon-Assas et Pompeu Fabra de Barcelone. Et ce travail de doctorat que je vous présente, qui attend aujourd'hui d'être publié, a été récompensé par le prix de thèse de l'Université Paris 2 et par la médaille René Cassin de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, la question des minorités sur lesquelles j'ai travaillé est un vaste sujet. Et ce n'est pas toujours évident parce que ça donne un peu le vertige. Qu'est-ce que les minorités Et en fonction des spécialités, il est difficile, hein, de circonscrire ce qu'on entend par là. Peut-être qu'une approche juridique est plus restrictive qu'une approche en sociologie. Et en droit, la période que j'ai choisie d'entre-deux-guerres constitue une période d'émulation intellectuelle. Et il faudra attendre peut-être les années 1990 et les conflits, le conflit en Yougoslavie, pour que la question des minorités soit redécouverte. Alors, on voit la première difficulté, hein, celle de circonscrire le sujet. Donc, la période de l'entre-deux-guerres, qui a été celle sur laquelle nous concentrons nos travaux, présente plusieurs intérêts. La première, c'est cette période marque la volonté de solder un conflit, la Première Guerre mondiale, un conflit qui, par son importance, hein, est unique, la création pour la première fois d'une organisation générale à vocation universelle, la Société des Nations, qui est la réalisation d'un projet notamment porté par le président Wilson. Il y a aussi toute une comment pourrait-on dire, le droit international se complexifie, hein, véritablement, et intervient dans plusieurs domaines qui auparavant n'intéressaient pas le droit international. Alors, l'autre difficulté concerne l'objet de notre étude. Qu'est-ce qu'une minorité? C'est un sujet vaste, nous l'avons dit, et il est difficile de donner une définition précise. D'ailleurs, certains auteurs parlent de l'insaisissable question des minorités. En effet, une définition trop souple rencontre l'opposition des États. Une définition trop restreinte rend la protection ineffective. Alors, si l'on se base sur une combinaison, hein, de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, dans les avis 1930 et 1935, plusieurs critères peuvent être dégagés. Une collectivité, une identité, une solidarité et un territoire donné. Bref, c'est une combinaison entre des éléments objectifs, distinctifs, hein, du reste de la population majoritaire, donc c'est un élément de fait, et auquel doivent être associés une part de subjectivité, une volonté et une identité propre qui est aussi conscientisée. Alors nous, ce que nous avons invoqué et convoqué, c'est le regard du juriste. De la doctrine ou du praticien, du professeur de droit, des docteurs, ils sont français majoritairement ou francophones, rattachés notamment à des centres de recherche français. Ils sont des militants dans des associations d'anciens combattants, ils sont eux-mêmes anciens combattants, ils sont pacifistes, ils sont certains politiciens, conseillers techniques auprès de la Société des Nations, je pense à Georges Sell, à l'Arnaud, au rapport Fauchy, à René Cassin. Ils sont investis, ils sont avant tout des militants du droit international. la question des minorités est d'autant plus intéressante que la notion même de minorité est éloignée de la culture juridique dominante française. Juristes sont aussi les commentateurs et les observateurs attentifs et avertis des évolutions d'un monde désespoir à la chute, d'un monde en mutation. Car la société des nations et cette période souffrent. On peut parler d'un héritage contrarié. Louis Cavaret, en 1951, dans un de ses ouvrages de droit international public, reconnaît qu'il n'y a quasiment plus rien dans le droit positif de cet héritage de la société des nations. Et pendant longtemps, nous restons justement sur cette image très marquée. En effet, la société des nations devait empêcher, protéger les minorités et empêcher un cataclysme, un conflit armé. La Seconde Guerre mondiale, par son intensité et par son horreur, va mettre en évidence ses insuffisances, au risque peut-être de marquer quels ont été les progrès de cette période, les avancées théoriques et en même temps la courte période sur laquelle ces progrès ont été réalisés. Alors, comme on l'a dit, après la Seconde Guerre mondiale, c'est donc une approche universaliste et individualiste que nous retrouvons dans la Charte des Nations Unies et qui signe pour un temps l'abandon du régime spécifique de protection des minorités. Alors, nous avons eu à traiter pour ce travail une abondante bibliographie avec des thèses qui correspondent à une période 1921-1940. Il faut savoir que pendant la guerre, à la fois par un double mouvement qui est celui d'une discipline, d'une autodiscipline et en même temps de la censure, il était impossible de traiter de ces questions, à l'exception peut-être d'un livre publié en Suisse du professeur Mandelstam, qui en plus une vie diplomatique auparavant, qui échappe à la censure. Donc 1921-1940, on compte environ en droit et en sciences économiques environ une vingtaine de thèses. Une vingtaine de thèses et sans compter les nombreuses publications qui sont les articles, les revues, qui sont les ouvrages, les manuels, les répétitions de cours, autrement dit les cours qui sont reproduits et publiés dans chez des éditeurs, généralement du 5e arrondissement. Ce sont aussi les recueils de l'Académie internationale, des revues françaises et des revues belges. Malgré l'abondante publication, pour les juristes, cette période d'entre-deux-guerres constitue paradoxalement une zone grise. Une zone grise parce que cette période d'entre-deux-guerres est l'histoire du droit international la mise en perspective de la protection internationale des droits de l'homme, l'histoire de la protection internationale des droits de l'homme, et finalement, d'après certains professeurs, d'après certains juristes, est une période un peu mal étudiée, moins étudiée. Ce qui commence à être peut-être moins le cas aujourd'hui. Alors, dans ces thèses de 1921-1940, on voit apparaître pour la première fois, quasiment, dans un titre, le terme de minorité, qui est pour Jacques Fouque Dupart, qui a écrit une thèse de tête en 1921 ou 1922, qui constitue peut-être un point de départ très intéressant par sa perspective un peu plus large que les deux, trois précédentes. Le terme minorité est un mot nouveau, d'après lui. Alors pourtant, l'idée des traités de minorité, on considère, pour de nombreux auteurs et observateurs, que la question nationale a été l'un des déclencheurs, si ce n'est un catalyseur du conflit. Pour régler la paix, c'est l'objectif, il faut régler cette question parce qu'elle a, elle a un potentiel de conflictualité qui est très important et qui peut reproduire de tels conflits. D'autant plus qu'à la conférence de la paix, qui se réunit pour la première fois en janvier 1919, sont présentes de nombreuses délégations de représentants de ces nationalités qui font ce qu'on appellerait du lobbying pour venir et pour plaider leur cause auprès des différents délégués et souvent, souvent beaucoup de succès. D'après Wilson, d'ailleurs, rien n'est plus susceptible de trouver la paix du monde que le traitement dont les minorités, dans certaines circonstances, peuvent faire l'objet. D'autant plus que le redécoupage des frontières qui a été opéré juste après la guerre, laisse des îlots enclavés de populations hein, dans des États qui sont déjà très hétérogènes. Or, d'après des chiffres qui sont difficiles à vérifier, mais donnés par le célèbre professeur Georges Sell, on estime qu'il reste à peu près, au sortir de la guerre, après ces découpages de frontières, environ 30 millions de minoritaires. C'est une réduction importante, parce qu'avant-guerre, on l'estimait à plus de 60 millions. Alors, ces traités conclus avec les différents États ont plusieurs formes. Il y a les traités conclus avec les États créés ou restaurés. Et là, par exemple, on peut citer le plus célèbre traité avec la Pologne, qui constituera le traité de référence. Et le traité avec la Tchécoslovaquie. En fait, dans ces cas-là, les traités de paix contiennent une clause de renvoi, notamment à l'article 93, alinéa 1er du traité de Versailles concernant la Pologne. Alors là, la difficulté est d'une autre nature, parce qu'il s'agit de pays normalement alliés, et donc ces suggestions vont être difficiles à accepter. Alors, il y a les traités aussi conclus avec les États vaincus, qui sont souvent amputés de portions de territoire. À ce titre, les clauses sont directement introduites dans les traités de paix. Nous pouvons penser par exemple au traité de Saint-Germain pour l'Autriche, le traité de Trianon pour la Hongrie, le traité de Neuilly pour la Bulgarie et le traité de Sèvres, puis Lausanne pour la Turquie, l'Allemagne en étant dispensée d'un traité général. Et les États gratifiés de nouveaux territoires comme la Roumanie ou l'État des Serbes croates et slovènes, la future Yougoslavie. Il existe aussi des accords particuliers. Alors là, on est sur des accords bilatéraux qui concernent des points spécifiques. On peut penser, par exemple, à la Convention germano-polonaise de 1922 concernant la Haute-Silésie, où un régime très important, les îles Allant, qui va se perpétuer après la Seconde Guerre mondiale. C'est un des rares cas. Les auteurs, généralement, dressent une liste, un inventaire très descriptif. On peut prendre, par exemple, pour montrer ces cas particuliers, pour l'illustrer, la question scolaire en Yougoslavie et dans le Banat roumain, donc le Banat roumain avec pour capitale Timișoara, qui est réglé par le traité du 17 août 1927. Et enfin, à côté, pour montrer que cette œuvre connaît un certain dynamisme, il y a les déclarations unilatérales. Les déclarations unilatérales, donc faites devant le Conseil de la Société des Nations, au moment de leur admission, les États s'engagent à respecter ces droits conformément à la résolution de la première assemblée du 15 décembre 1920. Alors, on peut citer comme exemple la Finlande et les différents pays baltes, même si les négociations vont être particulièrement difficiles. Alors, on le voit bien, le droit international s'enrichit et se construit, se consolide. Il y a même un mouvement créateur et dynamique. Or, les droits qui sont reconnus sont de plusieurs natures. L'égalité, tout d'abord, avec l'acquisition de la nationalité. Il y aura eu une difficulté précédemment, et les rédacteurs américains s'en rappelleront, concernant la Roumanie, notamment dans le traité avec la Roumanie de 1878. Il s'agit là d'un problème dans la mesure où la qualité nationale est la condition préalable au bénéfice d'une protection renforcée des minorités. Les autres droits reconnus, c'est l'égalité civile et politique, qui pose un principe général de non-discrimination, et la reconnaissance de la liberté de culte et de conscience comme corollaire. Et finalement, des droits que nous retrouvions déjà dans les traités de Vienne avant et dans le traité de Berlin de 1878, qui est notamment prévu dans, de souvenir, à peu près 5 articles. Et enfin, peut-être un terrain nouveau, comme disent certains auteurs, c'est l'autonomie culturelle. Alors l'autonomie culturelle, qui est prévue notamment aux articles 7, 8, 9 du traité polonais, c'est la reconnaissance de droits linguistiques, la liberté d'enseignement, la liberté de groupement ou le droit à l'auto-administration, et qui permet finalement à la communauté de conserver son caractère distinctif. Mais alors, pour une partie des auteurs étudiés, ces mesures restent relativement classiques. Les droits reconnus, mais aussi dans leur nature. Les traités garantissent des droits individuels et le groupe est finalement indirectement pris en compte par le caractère collectif de leur mise en œuvre, par exemple la langue. À l'exception peut-être de quelques autonomies personnelles accordées, notamment dans le traité avec la Tchécoslovaquie à l'article 10 et suivant, au Ruthen, mais une autonomie qui ne sera jamais réellement mise en œuvre. Et là, on le voit bien qu'il y a un refus chez les auteurs de revoir le modèle classique, le schéma de l'État-nation, alors qu'il existait des pistes. On peut penser par exemple aux travaux d'un courant austro-marxiste, par exemple, avec Karl Renner et Otto Bauer, qui ont été repris en partie dans une thèse soutenue à Toulouse en 1927 par Samuel Friedman, mais finalement, contrairement au titre, peut-être dans la partie 2B, donc plus à la fin finalement. Et cette idée, c'est de tenter de dépasser l'impossibilité de faire correspondre les nations avec les frontières en proposant une autonomie personnelle. Or, on voit bien finalement pour les différents auteurs, une question se pose. Les traités doivent-ils préserver l'identité de l'autonomie ou au contraire, à terme, doivent-ils assimiler ? Et c'est une question qui est difficile. Alors, il n'y a pas réellement de consensus au sein de la doctrine et dans les différentes publications que nous avons étudiées. Toutefois, on peut dire que très peu d'auteurs, voire quasiment aucun, ne soutiennent ces deux positions extrêmes. Et la nuance va se situer plutôt sur une position intermédiaire, par exemple celle soutenue d'une troisième voie par Louis Le Fur. C'est-à-dire, finalement, il faut, conformément notamment à l'avis de la CPGI de 1935, garder, conserver, donner moyen aux populations de conserver leurs traits distinctifs, mais en même temps, pour l'auteur, il ne faut pas que la minorité soit étrangère dans son pays. Et Louis Le Fur suggère plutôt de laisser le temps faire son œuvre. Mais il précise toutefois que les minorités, en contrepartie, ont un devoir de loyauté. Alors, ce qui ressort donc des nombreux auteurs que nous avons étudiés, c'est l'absence de conceptualisation. Et ça, c'est pas peut-être quelque chose que nous remarquons, c'est que le droit des minorités n'est pas réellement théorisé, conceptualisé. Alors, cette démarche s'inscrit plutôt dans une réflexion relative à la place de l'individu comme sujet de droit international et comme critique de la souveraineté absolue de l'État. Finalement, le droit des minorités s'intègre, doit assurer la primauté du droit de la communauté internationale sur le droit de l'État, pour reprendre une formule d'André Mandelstam. Il s'agit de constituer une communauté fondée sur la primauté du droit, la coopération et la responsabilité. Toutefois, dans la pratique, le droit des minorités aura largement mis à l'épreuve les grands principes dégagés par Wilson, dont les idées ont été accueillies, il faut le dire, par certains auteurs, avec des réserves, peut-être une part d'incompréhension qui est liée aussi à des différences sur qu'est-ce qu'on entend par la libre disposition ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui ont parfois un sens un peu différent en Europe et notamment dans nos cultures juridiques et aux États-Unis. Et le droit des minorités aura mis peut-être en évidence les paradoxes de la nouvelle organisation. Tout d'abord, la période d'après-guerre marque l'apogée, d'après Charles Rousseau, du recours au plébiscite. Il est utilisé comme jamais précédemment dans l'histoire. Mais son usage peut être limité. Tout d'abord, il n'est pas utilisé pour tous les découpages de frontières, car, et c'est un grief qui va être formulé, la question des intérêts stratégiques, géopolitiques et la vitalité des États est prise en compte dans l'arbitrage. Mais aussi, certains sont, non pas tout à fait interdits, mais strictement encadrés, ce qui revient des fois un peu la même chose. Je pense par exemple au très célèbre exemple de l'Anschluss, dont les conditions sont prévues à l'article 80 du traité de Versailles et 88 du traité de Saint-Germain. La doctrine d'ailleurs sur son usage, sur son recours, étendu et plus réservé, du moins certains auteurs. Le droit des minorités est perçu comme une compensation, un succès d'année, suivant les termes de Georges Sell. Pourtant, elle est une reconnaissance partielle du principe des nationalités, car on reconnaît une particularité. Toutefois, c'est en même temps une compensation aux espoirs déçus et l'absence d'une réalisation totale. Il y a une rancœur entretenue chez les États débiteurs par la différence de traitement. En effet, à la très grande majorité, ce droit ne relève que les États débiteurs, ne sont finalement que des États d'Europe de l'Est. et les États d'Europe de l'Ouest se dégagent de telles suggestions, alors qu'il existe des difficultés aussi. Je pense par exemple à la question irlandaise, à la question flamande qui avait été soulevée pendant la guerre. En Espagne, la question catalane et basque est déjà présente. Dans les pétitions, on entend parler des Français du Canada. Bref, des plusieurs exemples qui auraient pu poser la question de son extension. Il y a des dysfonctionnements, des garanties prévues, et finalement, c'est bien une difficulté, parce que ce n'est pas tant la matérialité du droit que la matérialité, que les garanties et que les mécanismes qui faisaient la spécificité du droit de l'entre-deux-guerres et du droit des minorités. Autrement dit, une double garantie, une clause de droit interne et une garantie internationale qui devait garantir l'effectivité de ce droit en transférant ce qui était précédemment la sauvegarde du droit des minorités des puissances à une organisation permanente à vocation universelle. Et on verra que le mécanisme de sanction et en même temps le rôle prépondérant accordé au Conseil dans la pratique, l'omniprésence de l'État incriminé et la stricte interprétation des critères de recevabilité vont donner une application assez restreinte à la fois à ses recours, aux recours juridictionnels et aux droits de pétition. Et bien sûr, comme nous l'avons dit, un droit de sanction très limité. Alors toutefois, contrairement à Ordevancier, les traités de 1919-1920 fait reposer la paix non plus sur des mesures palliatives ciblées, mais sur une reconstitution du monde politique moderne, et avec toujours finalement cette tension, et une tension qui est protégée et préservée. Et protéger les minorités, protéger la paix, mais en même temps peur de déconstruire. Et c'est là la difficulté, c'est que le droit des minorités de l'entre-deux-guerres et aussi la doctrine ne remet pas en question la conception classique de l'État et notamment de l'État-nation. Le droit des minorités marque, là où elle marque vraiment une rupture, c'est avec la souveraineté absolue de l'État. Le droit des minorités ne peut être entendu finalement que dans le mécanisme de la société des nations, et le mécanisme de la société des nations ne peut fonctionner que si finalement il y a un jeu qui est un jeu, on peut dire, loyal, et ce jeu loyal suppose finalement l'abolition de la souveraineté absolue des États, ce qui ne sera pas tout le cas. La Seconde Guerre mondiale, en passant peut-être vite sur des éléments, mais va avoir raison de ces mécanismes, mais bien avant finalement les années 30. À partir du moment où les sanctions ne fonctionnent plus, et je pense dès la crise avec l'Italie et par exemple l'Abyssinie, le mécanisme de sanctions, les garanties ne fonctionnant plus, le droit des minorités perd de sa pertinence. Dans ces cas-là, il rentre dans un jeu politique et non plus dans un mécanisme. Dans un mécanisme qui est soumis à un contrôle régulier de l'organisation. Pourtant, les avancées de la société des nations, n'oublions pas que ce sont des avancées sur 15 ans, une période relativement courte, dans un contexte notamment des années 30, social, économique et politique particulièrement troublé, sont des promesses d'avenir et ils préfigurent les grandes avancées des débats de 1945. Et je pense notamment à l'Union européenne, dont le projet avait été esquissé par Briand, une organisation internationale, la responsabilité pénale internationale qui connaît à l'entre-deux-guerres de grands progrès, une protection des droits de l'homme. Et n'oublions pas que la généralisation des droits de l'homme a été posée notamment par André Mandelstam, qui a réfléchi pour justement compenser face à l'impossibilité de généraliser ce droit des minorités et face aux crises de 1925, 30, 31, 32, 33 et 34, de la possibilité d'étendre les principales dispositions, en estimant qu'il y avait là assumé un choix tactique pour étendre le droit. Alors, pour résumer, finalement, pour Georges Sell, le système de protection des minorités est un droit en transition entre la pratique ancienne de l'intervention et la pratique superétatique de la garantie des libertés, mais aussi entre la liberté juridictionnelle et la garantie diplomatique, entre le système de la personnalité juridique individuelle et celui de la tutelle gouvernementale. Alors, les tractations, on le voit bien, vont annihiler tous les grandes avancées et peut-être masquer les grandes avancées de cette période de l'entre-deux-guerres. Le droit va connaître une véritable atrophie et pourtant, Pourtant, les travaux, lorsqu'on se penche sur la question des minorités, qui entraînent, qu'il ne faut pas concevoir comme un droit de manière autonome, mais pris dans un ensemble, ce qui est peut-être le plus frappant, et je terminerai par ces propos, c'est la modernité des travaux et l'étendue des problématiques abordées par les juristes. La construction de l'Union européenne, l'universalisation des droits de l'homme, la question du désarmement, le sort des réfugiés, la lutte contre l'esclavage, la double nationalité, le sort des apatrides, la mise en œuvre de garanties exécutoires, la création d'une Cour internationale de justice, la responsabilité pénale internationale. Et là, lisez Philippe Sand, Retour à Lemberg, sur ce point, c'est très intéressant, qui préfigure déjà les grandes avancées qui suivront la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour certains auteurs, et notamment Charles de Vischer, la SDN a marqué une étape décisive dans l'organisation du monde et donc de l'avenir qu'il convient d'attendre, le perfectionnement de l'institution ébauchée. Voilà. Je vous remercie et j'espère que mes quelques mots auront permis à la fois d'éclaircir sur la question des minorités et aussi d'un travail qui mérite, je pense, d'être fait de réhabilitation de la société des nations. N'oublions pas que cet exercice est fait sur une période très courte dans un contexte social et que les progrès par rapport à l'avant-guerre sont considérables et que ceux après la Seconde Guerre mondiale s'inscrivent dans la continuité. Je vous remercie.